Double Face, Valérie Ogier.
Rendez-vous dans Double Face avec une écrivaine lausannoise, Chloé Falcy. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Votre deuxième livre, La mécanique des ailes, est paru aux éditions Hélice et Las et il est en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne. Vous travaillez également dans le domaine de l'édition, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous êtes diplômée en langue de l'Université de Lausanne et vous avez publié votre premier roman, ça c'était il y a 8 ans, Balkis, qui a récolté au passage plusieurs prix. Si l'on remonte le fil de votre parcours, Chloé Falcy, quel a été le déclic, quelle a été l'envie pour devenir écrivaine?
Je pense que comme beaucoup d'enfants, les mondes intérieurs sont très riches et on cherche depuis tout petit à s'exprimer. Ma plus jeune fille, déjà à 1 an et demi, elle commence déjà à essayer de dessiner. C'est un élan qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que je pense que c'était presque un peu naturel depuis toute petite. D'abord le dessin et puis ensuite j'avais trouvé que les mots permettaient aussi d'inventer nos propres mondes. Et je pense aussi qu'après à l'école, c'était des enseignants bienveillants qui m'avaient aussi donné des premiers encouragements avec les premières rédactions, travaux écrits qu'on devait rendre. Et puis voilà, c'était vraiment un plaisir, mais très, très spontané au départ.
Et petite, alors vous rêviez d'être écrivaine?
Oui, c'est venu assez vite. Alors, peut-être pas tout directement. Je pense qu'au départ, j'avais eu d'autres disciplines d'ailleurs ou métiers comme rêve qui étaient très difficiles. Il y avait eu styliste, chanteuse, donc très difficile également. Et quand même assez vite, je m'étais dit « Ah, mais écrire des livres, ça doit quand même être très chouette comme métier ».
Et là, quand vous en formulez l'envie auprès de votre famille, quelle est la réaction?
Plutôt bienveillante, mais je pense, et c'est normal, comme on peut être un peu, pas condescendant, c'est un petit peu trop fort, mais de se dire, ah oui, 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 bien sûr, on verra bien. Peut-être aussi de se dire que c'est une lubie qui va passer. Après, globalement, mes parents ont été encourageants. Mais surtout, la personne qui a été la plus encourageante, c'était mon grand-père maternel.
Freddy.
Exactement. Mon grand-père artiste auquel je dédie mon livre, parce que lui n'a jamais ri et m'avait vraiment dit « Tu sais, Chloé, si tu t'y mets vraiment sérieusement... c'est tout à fait possible en fait, il faut que tu t'entraînes parce que comme tout, ça vient en s'entraînant. » Et je pense que lui, il y avait une résonance parce qu'il était graphiste de formation et puis peintre à ses heures perdues. Donc je pense qu'il était très content de voir qu'une de ses petites filles avait vraiment le virus artistique.
Alors s'entraîner, ça veut dire écrire, répéter, raturer, vous le faites à quelle fréquence?
C'est très variable. Et ça a dépendu des périodes de ma vie. Je pense que quand j'ai écrit Balkis, j'étais encore très graphomane à écrire vraiment n'importe quand et sur de très longues périodes de temps. Mais j'avais plus de temps. J'étais encore étudiante. Maintenant, avec une vie de famille et puis également mon travail éditorial à côté, j'arrive encore à aménager un jour par semaine dédié à l'écriture. C'est du temps précieux. C'est du temps... pour lequel il faut se battre aussi parfois pour justifier ce temps dédié à la création. Du temps aussi parfois pour ne rien faire, attendre que l'inspiration vienne, aller se promener, lire. Mais c'est vrai que pour le moment, j'arrive encore à maintenir ce film et il est vraiment crucial pour moi.
Et donc, il est variable, il n'y a pas d'organisation. Chaque matin, vous écrivez ou chaque semaine, tel jour à telle heure, vous y mettez, Chloé Falcy?
Alors, il y a un jour par semaine qui est fixe pour l'écriture, mais la routine sur ce jour-là va être toujours différente et c'est en aucun cas tous les jours. Ça, pour le moment, ce n'est pas possible. Après, j'aime toujours dire que je pense que c'est vraiment des processus dans la vie d'artiste, d'écrivain, d'écrivaine. Et là, je pense que c'est une période qui est effectivement plus tendue par rapport au temps à lui consacrer, mais je doute pas qu'à un moment ça va se détendre et puis revenir, mais parfois on doit aussi jongler avec d'autres impératifs.
Qui peuvent être inspirants, qui peuvent se retrouver justement au fil des pages?
Oui, alors définitivement. Je défends vraiment, ou en tout cas je suis contre cette idée que les artistes doivent tout sacrifier pour pouvoir créer, ne pas avoir de famille et vraiment mettre toute leur énergie là-dedans, mais en sacrifiant tout le reste, hein, en coupant tout autour. Ma famille, mes proches, mon travail aussi, sont autant de sources d'inspiration et de frustration parfois. Mais la frustration, elle peut être aussi très féconde parce qu'elle me fait apprécier le temps que je peux consacrer à l'écriture aussi.
On va poursuivre le parcours de Chloé Falsi avec vous. Vous êtes la principale intéressée, donc la mieux placée pour en parler dans quelques minutes. Chloé Falsi est notre invitée dans Double Face ce week-end. Alors, La mécanique des ailes, c'est votre deuxième ouvrage. C'est celui qui est en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne. Mais si on remonte le temps, et avec votre premier ouvrage, Balkis, vous avez notamment gagné une résidence au château de Lavigny. Ça, c'était en septembre 2023. Est-ce que, déjà, à cet endroit, la mécanique des ailes est née ?
C'était plutôt la fin du processus d'écriture. Donc, j'ai pu poser les fondations d'un nouveau projet littéraire. Mais j'ai beaucoup peaufiné la mécanique des ailes pendant cette résidence.
Et la mécanique des ailes, elle est née quand vous étiez au musée de l'art brut.
Oui, et puis sur la suite, en fait, même quand quand j'ai arrêté mon activité de guide conférencière au musée, j'étais encore en chantier sur la mécanique des ailes, mais c'était vraiment cette première impulsion avait été donnée à la collection de l'art brut.
Et donc, en quelques mots, l'histoire se déroule autour d'un entomologiste que vous découvrez littéralement au musée de l'art brut.
Oui, par ses peintures. Et c'est justement ce qui m'a frappée dans son parcours, c'est que alors ses gouaches sont vraiment magnifiques, hallucinatoires, avec une technique aussi souvent très, très sauvage, très innovante, où en fait, Jean Gabrychewski avait coutume de notamment mettre ses doigts dans la peinture, de tracer aussi dans la matière avec le manche du pinceau pour faire émerger des formes, des visions. Mais ce qui m'avait frappée dans ce parcours, c'était vraiment le fait qu'à côté de sa passion pour la peinture, il avait également été chercheur, et un chercheur qui étudiait plus spécifiquement la génétique des mouches drosophiles, donc un entomologiste.
Et à partir de là, Chloé Falsi, vous êtes face à plusieurs toiles, plusieurs tableaux, plusieurs histoires, donc dans l'histoire de cet entomologiste, et vous dites, je vais en faire un roman. Ça part comme ça.
Oui, ça part comme ça. Et de façon assez mystérieuse, parce que il y a toujours une part mystérieuse dans la création. On a vraiment des sujets qui s'imposent à nous. Et là, c'est même presque comme si une voix, un avatar fictionnel de Jean Gabrychewski, parce que je ne prétends pas avoir pu vraiment restituer sa propre voix, mais en tout cas, une certaine version de son histoire s'était imposée et demandait à sortir. Et c'était aussi assez fascinant parce qu'on a des fois des livres qui s'écrivent presque sans qu'on ait besoin d'y penser, comme s'il y avait des phrases qui s'écrivaient dans notre tête, mais de façon très spontanée. Parfois, c'est un petit peu plus laborieux, l'écriture. Là, c'est vrai qu'en tout cas, les premières pages, les premiers textes que j'ai jetés sur son histoire sont venus très, très facilement.
Et vous vous souvenez des premiers mots qui, justement, ont jailli ?
Sauf erreur, c'était le début, cette image justement de cet homme qui est dans cet hôpital psychiatrique, en train de regarder la cour, et puis comme un tableau mouvant justement dans cette cour qui est pleine d'eau, il voit des ombres, des visions. Ça, c'était le début qui était venu de manière très, très instinctive.
Et ensuite, l'écriture pour vous, Chloé Falsi, c'est libérateur, c'est stressant, c'est comment ?
Alors, je vais faire un lien avec le personnage, mais c'est, je pense, comme toutes les passions, à la fois libérateur, à la fois stressant, c'est tout à la fois. Ça dépend, c'est schizophrénique comme état. Je pense que parfois, on se débat énormément avec son art, avec son écriture. C'est une souffrance d'écrire. Là, maintenant, bah, parfois, il y a même des pages entières que je mets de côté parce que je me dis que ça n'a pas été bien ce que j'ai écrit ce jour-là. Donc, ça va vraiment dépendre. Parfois, on a l'impression que tout s'imbrique et puis qu'il n'y a presque pas une ligne à jeter. Mais ça, c'est plus rare. La plupart du temps, c'est vrai que c'est aussi se débattre avec le texte. Et là aussi, je pense qu'il faut distinguer le premier jet qui, en tout cas chez moi, va sortir de manière plus sauvage, plus intuitive, Et puis après, quand vous relisez, bien sûr, c'est tout le travail de lycée, de traquer les redites, les métaphores peut-être trop envahissantes ou les métaphores qui ne fonctionnent pas. Parfois, en relisant, on se dit « ça faisait un bon effet, mais en fait, ça ne veut rien dire d'un point de vue du sens ». Et puis ça, c'est tout le travail d'orfèvrerie ou de dentelle qu'on se doit de faire par la suite pour améliorer le texte et pour améliorer notre propre pratique littéraire. C'est comme ça, on devient écrivain, écrivaine sur des années. En fait, c'est des années de raturage, de dialogue avec soi, avec la feuille, pour pouvoir s'améliorer, pour affiner sa pratique.
Et de doute aussi, parce que c'est finalement une remise en cause de soi, à travers soi, par soi.
Tout à fait, oui, avec nos propres doutes. Et puis, j'avais entendu Sylvia Richlempen, qui est une autrice suisse romande aussi, qui en parlait, que de doute aussi par rapport à une activité où personne ne nous attend, où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire et où on se dit quand même, ben voilà, j'estime ou je pense que je peux fournir un texte qui va offrir ce que moi je recherche dans d'autres livres, c'est-à-dire une réponse, un pansement ou un baume pour l'âme ou pour certains questionnements, des choses qu'on n'aurait pas pu formuler nous et qui vont trouver des réponses dans d'autres livres. Mais c'est vrai que pour assumer cette quête, c'est pas tous les jours facile et je pense que c'est salutaire d'avoir des doutes même.
Alors ces doutes, en plus, ils pourraient être renforcés par votre activité professionnelle. Mais ça, on va y venir dans quelques minutes, Chloé Falsi. Chloé Falsi est notre invitée dans Double Face dimanche. Votre livre, c'est La mécanique des ailes. Et il est disponible pour tout le monde actuellement, puisque comme il est en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne, vous pouvez le consulter sur le site de la ville. Vous le trouvez en librairie, bien sûr. Vous le trouvez aussi en bibliothèque. Ça, c'est pour aller encore plus à la rencontre de vos personnages et de votre façon d'écrire, Chloé Falsi. Mais on va revenir aussi sur votre autre activité professionnelle qui est de travailler dans l'édition. Et là, forcément, vous parliez il y a quelques minutes du doute de l'autrice que vous êtes. Est-ce qu'en plus, dans ce doute, il y a aussi le comparatif avec ce que vous lisez, ce que vous éditez ?
En partie dû au milieu, parce que c'est vrai que dans le monde littéraire roman, tout le monde se connaît, c'est en fait à la fois un vaste monde et un petit monde, un peu comme le monde des insectes. Mais c'est vrai que du fait que je travaille aux éditions Loisirs et Pédagogie, ce qui est salutaire pour moi, pour éviter aussi un trop fort comparatif, comme vous dites, c'est que mon activité professionnelle se concentre sur des livres de vulgarisation et de formation. Donc ça me permet aussi de sortir le nez du guidon et d'être dans une pratique de l'écriture et puis du regard éditorial qui va être différent parce qu'on parle de textes qui s'adressent à un autre public, qui sont non-fictionnels et puis donc qui répondent à d'autres codes. Par contre, ce qui est aussi très précieux avec cette activité dans l'édition, c'est que ça me permet de faire mes gammes dans l'écriture parce qu'on ne va pas écrire dans des livres pour la formation et la vulgarisation et attendre le même style ou peut-être la même approche que pour des livres littéraires de fiction. Donc ça me permet aussi d'avoir une pratique assez large de l'écriture et ça me plaît énormément dans le travail éditorial.
Et alors, par rapport à ce travail éditorial, est-ce qu'à un moment, les planètes s'alignent ? Vous avez écrit, vulgarisé un livre sur les insectes, parce que ce que vous décrivez du monde des insectes dans La mécanique des ailes, c'est pointu.
Je me suis pas mal documentée, effectivement. En tout cas, il fallait... Après, ce que je trouve toujours en plus terrible, c'est que même on se documente énormément, je suis sûre que des entomologistes vont peut-être voir certaines fautes, surtout aussi sur la génétique de ces années-là, qui était très simple par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais avec un parcours que j'avais de lettreuse, bien sûr, il fallait énormément se documenter.
Et c'est vrai parce que vous avez fait votre diplôme donc à l'université en lettres à Lausanne.
Voilà, exactement.
Donc loin de la biologie quand même.
Il a fallu un petit peu repotasser mes cours du gymnase. Et c'est vrai que là, peut-être vos auditrices et auditeurs auront en tête le fameux livre « Biologie, notions fondamentales » qu'on publie chez LEP. Et puis notamment, effectivement, celui-ci, je l'avais utilisé pour notamment me réapproprier un peu ces notions de génétique, et notamment la génétique qui était pratiquée dans ce laboratoire de T.H. Morgan, ce fameux généticien qui a eu le prix Nobel de médecine pour ses travaux pionniers sur la génétique, et dans le laboratoire duquel Eugène Gabrychewski avait étudié.
Et par rapport à tout ce vaste monde, en fait, il y a plusieurs mondes dans votre livre, La mécanique des ailes, où Chloé Falci trouve la trace pour se faufiler comme ça à travers les mondes.
C'est une excellente question. Et là, je pense que ce qui est assez fascinant, c'est que cette voix, bien sûr, c'est celle, ce jeu qui décline son histoire dans le livre. Bien sûr, c'est celle d'un narrateur masculin, mais je pense que ses obsessions, ses questionnements, ce sont peut-être autant les miennes, voire plus que celles du vrai Eugène Gabrychewski. Parce que le vrai Eugène Gabrychewski a disparu, on ne pourra jamais retrouver même sa voix. Là, c'est une certaine version de l'histoire. Mais j'ai l'impression que c'est aussi cette richesse dans la création, que cette voix qui s'est imposée, c'est une sorte d'hybride entre un avatar fictionnel de ce personnage, mais surtout, ça parle souvent de nos propres fantasmes. Je pense qu'en fait, en dépit du fait de faire de la fiction, c'est beaucoup la voix des autrices et des auteurs qu'on entend dans leurs livres. En tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'on ne peut pas complètement, en tout cas, se détacher de ce qui nous anime à un moment donné, qui va être travesti par la fiction, mais c'est quand même une large part de nous qu'on livre entre les pages.
Et alors justement, Chloé Falci, qu'est-ce que ce livre, La mécanique des ailes, a révélé de vous, selon vous ?
Quand j'ai commencé mes études à l'université de Lausanne, je me souviens, on était dans une dynamique très compétitive entre départements. On défendait beaucoup nos choix d'études. Et à l'époque, je me suis mise avec mon compagnon, avec lequel je suis toujours maintenant. Et on était vraiment un couple extrêmement cliché. Moi, j'étais lettreuse à l'université de Lausanne et lui étudiait la chimie à l'EPFL. Et je me souviens, vraiment, ces premières années, on était tout le temps à se prendre le bec, à débattre de quel langage, quelle discipline est la plus noble, la plus à même de faire comprendre le monde, de le représenter. Bien sûr, moi, je disais que c'était l'art, et puis sa partie d'intuition, de mystère. Et mon compagnon disait non, c'est la science, sa rigueur, le fait qu'on travaille sur des théories qu'on doit modéliser et ensuite prouver, ce n'est pas laissé au hasard. Et je pense que ça a été, ce livre dit beaucoup de nos discussions, de comment on s'est ouvert les yeux l'un à l'autre, parce que moi j'ai fini par voir toute cette beauté dans la science, cette rigueur qu'elle demande, son mystère aussi, parce qu'elle demande énormément d'intuition. Et je pense que mon compagnon a aussi vu tout le travail, également en me voyant écrire, que demandent les disciplines artistiques, et qu'en fait elles sont vraiment complémentaires dans la façon de représenter le monde. C'est deux chemins différents, mais en fait, souvent, je pense même qu'ils se ressemblent beaucoup plus que ce que les catégorisations des différentes disciplines peuvent peut-être nous laisser croire.
Et en tout cas, ce ne sont pas des mondes qui s'opposent.
Non, exactement, ils ne s'opposent pas.
Dans votre processus d'écriture, Chloé Falci, il y a un rituel ?
Alors, pas de temps. Ça, ce n'est pas un rituel qui me vient. En même temps, je dois rester assez disponible du temps que j'ai pour écrire, parce que c'est vrai que c'est un temps pour lequel il faut se battre en travaillant et puis en étant mère aussi. Mais quelque chose qui reste, c'est que j'écris toujours à la main. Ça, j'y tiens pour ce côté presque organique au papier. Et je pense qu'on écrit vraiment différemment, avec différentes intuitions ou inspirations quand on écrit à la main au clavier.
Et au ensuite... stylo, à la plume ?
Non, alors quand même pas à la plume, au stylo. Non, quand même. Alors, un stylo bille, un magnifique plume d'ailleurs, Mont Blanc, que m'ont offert les membres de ma famille pour mes 30 ans, que j'adore manipuler. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste. Et ensuite, ça me permet de lisser quand je retape à l'ordinateur. Et puis là, ben, bien sûr, ça permet de voir les incohérences, les ratures. Ben, souvent, on voit que c'est les moments du texte où il faudra plus retravailler, parce que ça n'a pas coulé comme de l'eau de source. C'est plutôt devenu un terrain boueux. Et puis là, ça permet de lisser le texte et puis de l'amener à avoir une forme un peu plus aboutie.
Et au fil de votre parcours d'écrivaine et précédemment de votre parcours d'étudiante, il y a des auteurs ou des autrices qui ont tenu la route. Parce que c'est vrai, on évolue dans ses goûts littéraires, mais est-ce qu'il y a quand même des ouvrages de référence, des personnages de référence qui sont toujours là pour vous?
Alors définitivement, je pense qu'une autrice qui m'a vraiment marquée, mais aussi par sa vie, mais en premier lieu, c'était par ce livre pour moi qui est un chef-d'œuvre, c'est Mary Shelley avec Frankenstein. Déjà parce que quand je l'ai lu, je trouvais que l'histoire était vraiment d'une puissance et d'une originalité folle. Et quand j'ai appris qu'elle l'avait écrit, sauf erreur, à 18 ans ou peut-être 20 ans, je me disais, ok, mais c'est incroyable à cet âge-là qu'elle ait écrit une œuvre d'une telle force. Et en plus, il y avait toute cette histoire en fait, qu'elle avait écrite en Suisse lors de cette année sans été, et que c'était Lord Byron qui avait lancé un défi à elle et à son mari en disant « Ah, on va écrire une histoire d'horreur, et c'est la seule et la femme qui a rempli ce défi ». Et puis c'est vrai que ça, c'est plutôt des questionnements qui sont venus par la suite, mais elle a perdu plusieurs de ses enfants, son mari par la suite également. Et c'est vrai que c'est un parcours et puis vraiment une œuvre qui reste très importante pour moi dans mes inspirations. Et bien sûr, une autre très grande dame de la littérature, aussi dans la sphère anglo-saxonne, pour moi, c'est Margaret Atwood, parce qu'elle allie vraiment une immédiateté du style, mais également une très très grande beauté dans sa langue. Donc je dirais là comme ça, spontanément, c'est les deux noms qui me viennent, donc des deux autrices.
Et vous, en tant qu'autrice, est-ce que le retour de vos lecteurs, de vos lectrices, ou leurs critiques, ou simplement leurs remarques, influence votre écriture?
Je dirais qu'elle n'influence pas dans la mesure que ça vient sur des textes qui sont déjà écrits. Après, ce qui est assez fascinant, je trouve toujours, c'est que souvent, les personnes nous en parlent de nos personnages comme si c'était des personnes qui étaient vivantes. Parfois, d'ailleurs, de manière négative. Je me rappelle que pour mon premier livre, Balkis, une dame avait vraiment été très heurtée en disant que le personnage principal était une traînée, parce qu'en fait, elle couche hors mariage dans les années 50-60, donc à une époque où les mœurs également en Suisse étaient très corsetées. Mais ça, je trouve que c'est vraiment fascinant parce qu'on voit comme ça a touché en bien comme en mal. Après, c'est extrêmement nourrissant, par contre, d'avoir des retours des lectrices et des lecteurs parce que ça donne vraiment le sens à ce qu'on fait. Un livre qui ne s'adresse à personne, ce n'est pas un livre, c'est des pages qui peuvent rester là dans un coin. Donc, ce qui nourrit énormément, c'est de voir que ça a touché. Mais parfois, c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres collègues autrices et auteurs que ça peut être assez déroutant, parce que parfois, c'est vrai que les gens s'en sont tellement emparés qu'on a l'impression qu'en fait, c'est une vie qui nous échappe.
Et parallèlement, donc, ces livres, ils vous échappent parce qu'ils vont ailleurs, ils rentrent dans d'autres intérieurs, dans d'autres vies. Est-ce que certains de vos personnages aussi peuvent vous échapper?
Tout à fait. Oui, et c'est vrai que même quand j'écris, je pense que j'ai toujours un petit peu cette idée que quand j'écris, c'est à moitié cette source d'inspiration et à moitié moi qui l'écris et donc qui m'en empare. Et ça, c'est la première vie du livre. Et puis ensuite, ce qui est encore plus riche, c'est de se dire, d'accord, de ce support, c'est les lectrices et les lecteurs qui vont s'en emparer. Et je pense que c'est aussi ce qui est fascinant dans les personnages. Les personnages, souvent, je ne les décris pas plus que tant, ou en tout cas par touche impressionniste, parce que, en fait, c'est les lectrices et les lecteurs qui vont s'en emparer. Après, j'aime bien jouer sur cette frontière de donner assez de détails, mais de se dire que potentiellement, ils seront plus ou moins différents, différentes pour chacune et chacun, pour qu'après ce soit vraiment les lectrices, les lecteurs qui les fixent dans leur propre version.
Là, ça tombe bien, la mécanique des ailes, bien, tout le monde peut fixer la direction qu'il veut, puisque, on le rappelle, comme c'est l'un des 5 ouvrages en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne, il est disponible sur le site de la ville de Lausanne gratuitement. Il est disponible aussi, la mécanique des ailes, dans les bibliothèques et également, bien sûr, en librairie. On a fait plus ample connaissance avec vous, Chloé Falcy, avec votre deuxième livre, À la mécanique des ailes. On va parler de vos projets aussi. puisque vous avez écrit au château de Lavigny en 2023. Donc, il est où ce projet ?
Alors, ce projet est toujours dans les pipelines, donc en train de maturer dans une version plus ou moins aboutie. Mais il a encore besoin d'avoir d'un peu de travail pour pouvoir être satisfaisant dans la forme que je pourrais proposer à mon éditeur. Donc encore un travail en cours.
De décantation ou vous le laissez un peu décanter comme ça ?
Oui, et ça c'est peut-être aussi une des difficultés dans le métier d'autrice, d'auteur, mais qui est tout à fait normal, c'est qu'on passe de périodes d'obscurité, ou en tout cas où on est seul avec son texte, à des périodes de mise en lumière quand le texte sort. Et là c'est vrai que je le laisse décanter, parce que je me réoccupe de la mécanique des ailes et puis de justement sa vie publique, ou en tout cas sa vie auprès des lectrices et des lecteurs. C'est vrai qu'on a toujours ces temps un peu de grand écart dans les métiers de la création.
La dernière ligne droite, c'est pour faire encore plus ample connaissance avec vous, Chloé Falcy, mais de manière du tac au tac. Vous voyez l'idée ? Question courte, réponse comme vous voulez. Votre plus grande qualité, selon vous, Chloé Falcy ?
C'est une question difficile comme ça, du tac au tac. Mais je dirais, des fois, ça me joue des tours, l'intégrité. Essayer de rester au plus proche de ce que je pense, mais aussi de mes valeurs.
Et de l'autre côté de la balance, votre plus grand défaut, selon vous ?
Côté un peu intransigeant, et je pense que toutes les qualités vont aussi avec le pendant, en tout cas, du défaut.
Si vous deviez vous décrire en deux phrases, Chloé Falcy, vous diriez ?
Voilà, ce qui me vient très, très spontanément, ce serait autrice lausannoise, mais je pense que là, vraiment, à cette période de ma vie, il y a aussi vraiment le fait d'être une mère pour mes deux petites filles, parce que là, c'est vraiment quelque chose de central dans ma vie.
Qui incarnerait le film de votre vie ?
J'aime beaucoup que Kirsten Stewart est aussi dans le côté androgyne, justement une force féminine, mais aussi masculine.
Votre plaisir coupable ? S'il est avouable.
Ah oui, tout à fait. Non, puis là, je vais faire une réponse très convenue, mais le tiramisu.
Maison, c'est vous qui le faites ?
Oui, aussi. Au restaurant.
Si vous pouviez être quelqu'un d'autre, 24 heures, vous choisiriez la vie de qui ?
Et comme ça, vraiment, rien ne me vient. J'aime beaucoup ma vie avec ces défis, mais là, alors effectivement, je ne vous fais pas juste une réponse pour m'en tirer, mais rien me vient de manière spontanée.
Et le livre que vous auriez aimé écrire ? C'est une question rituelle pour un écrivain ou une écrivaine.
Mais vraiment Frankenstein, parce que je pense qu'à cette époque, et puis avec toute sa symbolique et sa puissance, ça reste un livre hors norme.
Quel est le son que vous aimez le plus ?
Le rire de mes enfants.
Et le son que vous détestez le plus ?
Les trains qui crissent en arrivant très fort dans les gares de Suisse romande, ça me donne toujours envie de me boucher les oreilles.
Vous habitez loin de la gare, on espère.
Assez loin de la gare, mais je prends assez souvent le train pour que parfois ça me donne envie de me boucher les oreilles.
Et si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel ?
C'est très convenu aussi, mais je pense de pouvoir enlever la souffrance et la tristesse chez mes proches. Mais pas seulement chez mes proches, chez les gens qu'on sent mal. Je pense qu'il y a cette personne qui vont mal pour avoir envie de pouvoir avoir le pouvoir de les soulager par magie.
Et les 30 dernières secondes, Chloé Falcy, sont pour vous. Vous en faites ce que vous voulez.
Alors, auditrice et auditeur, je vous dirais que si vous voulez lire quelque chose, ou en tout cas une histoire qui vous questionnera peut-être sur l'art, la science, la folie, mais aussi le vertige d'être pris dans la macro-histoire qui s'emballe, et d'essayer par les moyens qui nous appartiennent et puis qui sont les nôtres à notre toute petite échelle, d'agir et essayer de faire son mieux en aimant et en suivant son fil de chemin, eh bien, peut-être que la mécanique des ailes est pour vous.
Et la mécanique des ailes est pour vous sur le site du prix du livre de la ville de Lausanne, donc sur le site de la ville de Lausanne, puisque les 5 ouvrages en compétition sont disponibles. Ils sont aussi disponibles dans les bibliothèques. Alors, il faut prendre peut-être un peu d'avance, parce que c'est très couru aussi pour avoir l'objet physique en main. Et puis, en librairie, La mécanique des ailes, signée Chloé Falcy aux éditions Elis Hélas. Merci beaucoup, Chloé Falcy.
Merci à vous.
Et je rappelle aux auditeurs et auditrices que chacun, chacune peut voter pour l'ouvrage qu'il préfère jusqu'au 31 décembre.